Moscou, le 28 septembre 1972. La dernière partie de la toute première confrontation entre les joueurs de l'Union soviétique et les meilleurs joueurs canadiens de la Ligue nationale de hockey. Après avoir subi la défaite à 3 reprises contre une seule victoire et une partie nulle, le Canada a gagné les 6e et 7e parties, égalant ainsi la série. Dans les bureaux, les salles de classe et différents lieux de travail partout au Canada, des millions de Canadiens avaient les yeux rivés sur le petit écran ou écoutaient la description du match à la radio. Ce 8e match, diffusé le jour, était donc le match décisif. Les joueurs canadiens avaient riposté avec un déficit de 2 buts en 3e période, égalisant la marque 5-5. Et avec moins d'une minute à jouer, tout portait à croire que cela se solderait par un match nul. Et puis, Paul Anderson des Maple Leafs de Toronto a fait signe à un de ses coéquipiers de revenir au banc et il a sauté sur la glace. Anderson avait d'ailleurs marqué le but gagnant durant les matchs 6 et 7. Il avait l'impression qu'il pourrait réussir l'exploit encore une fois. Écoutons le regretté Foster Hewitt et sa description de la dernière minute de jeu. Les Canadiens n'auront jamais, lors d'un événement sportif, démontré autant de patriotisme. Encore aujourd'hui, les gens se souviennent où ils étaient lorsque Anderson a enfilé le but victorieux. Le but du siècle. C'est avec une joie profonde que je vous présente le héros de la série 1972 entre le Canada et l'Union soviétique, M. Paul Anderson. Bien le bonsoir. Quel plaisir pour moi d'être ici ce soir. Pouvez-vous seulement vous imaginer jusqu'à quel point c'est frustrant pour un joueur de hockey professionnel qui a joué pendant 18 ans d'être célèbre en raison d'une séquence de 10 secondes sur la glace? Et ce que je trouve le plus frustrant encore, c'est que j'aurais pu compter ce but à n'importe quel moment. C'est drôle, mais j'ai vraiment l'impression que vous ne me croyez pas. C'est tout aussi clair dans ma mémoire que ma présence ici ce soir. C'était une série de 8 parties, 4 ici au Canada et 4 là-bas. Et là, il faut se retrousser les manches pour espérer remporter les 3 dernières parties et ainsi remporter la série. Et j'avais marqué le but gagnant de la 6e et de la 7e partie. Le but que j'ai compté dans le 7e match, c'est le meilleur but que j'ai marqué dans ma carrière. Et j'avais déjoué Tretiak 6 fois jusque-là. Ronnie Ellis était mon meilleur ami au monde, un coéquipier hors pair, et le joueur de centre des Maple Leafs était Norm Yeoman. Et dans cette série, Bobby Clark était joueur de centre. Il y avait Ronnie et moi, et Tretiak avait bloqué tous les tirs de Ronnie Ellis durant 7 matchs. Et après ce 7e match, on est en train de s'habiller, je mets mon bras autour de mon pote, et je lui dis « Ronnie, tu t'es ménagé pendant 7 parties, tu vas marquer le but gagnant. » Et puis là, on est sur la glace, dernier match, après la 2e période, et les Russes mènent 5-3. Il n'y a rien là. Le grand Phil Esposito, un leader spirituel naturel, que ce soit sur la glace ou non, marque un but dans la première portion de la 3e période. La marque est 5-4. Et puis là, le roadrunner du Canadien, Yvan Cournoyer, compte un but à la 12e minute. Et le score est égal, 5-5. Et puis les minutes défilent au tableau indicateur. 13, 14, 15 minutes, 16 minutes, 17, 18, 19 minutes écoulées. Ben là, c'était clair que je pouvais plus attendre après Ellis. Ce que j'aimerais faire avec vous au cours des prochaines minutes, c'est m'ouvrir à vous et partager avec vous les étapes qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Je suis né en Ontario. En fait, une des raisons pour lesquelles je suis devenu un joueur de hockey, c'est que je suis né sur une carriole au beau milieu d'une tempête. Les routes étaient fermées et on ne pouvait pas se rendre à l'hôpital. Donc, ils ont harnaché les chevaux, ils ont déposé ma mère dans la carriole, ils sont partis vers l'hôpital. Mais j'ai toujours été rapide sur la glace et j'ai été rapide dans ce cas-ci aussi. Je suis né sur la carriole. Mon père était un grand amateur de hockey et le samedi soir, quand Foster Hewitt prenait l'antenne à la radio, la soirée du hockey, aïe aïe, tout le monde assis et tranquille. C'était la soirée du hockey. Mon frère et moi, on a grandi dans cette atmosphère et mon père m'a certainement encouragé à persévérer. Et je me souviens qu'en cinquième année, j'ai décidé que je voulais jouer au hockey professionnellement. Et je me rappelle très clairement que dès la cinquième, j'ai commencé à écrire mon autographe parce que si je me rendais à la Ligue nationale, je voulais que les gens sachent qui j'étais. N'est-ce pas assez ridicule? Mais je caressais un rêve. Un rêve de petit gars d'aller jouer pour la LNH. Et puis à 16 ans, j'ai rencontré une belle jeune fille qui allait à l'école secondaire dans une autre petite ville. Et puis nous sommes sortis ensemble à quelques reprises, et puis on a planifié de faire notre vie ensemble. Vraiment une bonne fille. Et puis j'ai commencé à jouer de mieux en mieux au hockey. Les Red Wings m'ont repêché, et puis j'ai joué junior pour les Red Wings de Hamilton. En 1962, on a remporté la Coupe Memorial. Les champions du Canada. Quelle merveilleuse expérience que de jouer pour une équipe de championnat. La Coupe Stanley m'a échappé à deux reprises, et j'ai pleuré comme un bébé. Alors quand je me rappelle cette année de championnat junior, de beaux souvenirs me reviennent. Après cette année-là, après avoir discuté avec ma future épouse, on a décidé que j'allais laisser tomber le hockey et me concentrer sur mes études. Il n'y avait que 100 joueurs à l'époque, 6 équipes. La paye n'était pas si bonne que ça, et puis on en discutait, et tout ce que je voulais, faire de l'argent. Et je voulais aussi avoir du succès dans la vie. J'ai grandi à la campagne, et on n'avait jamais assez d'argent. C'était vraiment exaspérant. Et je voulais une belle vie, une bonne vie. Ça voulait dire de l'argent, un bon mariage, avoir du succès dans tout. Alors j'ai dit aux Red Wings que j'avais décidé de laisser tomber, et je l'ai dit à mes parents. Et j'ai dit que je voulais me concentrer sur mes études parce que je ne voyais pas comment je pourrais me concentrer sur mes études universitaires tout en jouant au hockey. Et puis mon père m'a dit, « Vas-y, finis ton junior, essaye-toi, parce que tu te demanderas jusqu'à ta mort si tu aurais pu te rendre jusqu'à la Ligue nationale. » Alors j'y ai pensé tout l'été et en septembre, j'en ai parlé à ma future épouse et je lui ai dit, « Tu sais, je pense vraiment que je devrais essayer. » Et on a décidé que je jouerais 2 ans, et que je jouerais la dernière année de junior majeur, et que si je ne faisais pas la Ligue nationale, je retournerais aux études et on partirait de là. J'ai joué ma dernière année et j'ai établi un record de buts comptés, et j'ai finalement pu jouer pour les Red Wings en 1963, et j'ai pu jouer avec ma plus grande idole. Je suis ensuite arrivé à Toronto en 1968. Quelques-uns d'entre vous, qui êtes des fans des Maple Leafs et de Frank Mihovlich, êtes encore choqués contre moi et vous me dites « Je peux pas te sentir, Anderson », et ce, depuis le jour où Mihovlich a été échangé. Donc, s'il y a d'anciens fans de Maple Leafs ici, sachez que les joueurs n'ont rien à voir dans les échanges. Alors, quand je suis arrivé à Toronto en 1968 pour évoluer avec Norm Allman, Floyd Smith, Frank Mihovlich, Gary Youngner, Peter Stamkowski et Carl Brewer, je suis arrivé à Toronto et j'ai vraiment aimé ça. En 1972, si vous vous souvenez bien, on voulait mettre les Russes à leur place. Ils n'arrêtaient pas de battre nos équipes amateurs, mais ils n'avaient jamais encore joué contre les grands. On ne savait pas vraiment comment la série allait se dérouler, mais on a appris que ça serait une série de 8 parties. On a su qu'ils inviteraient 35 joueurs au camp d'entraînement, et ils formeraient l'équipe à partir de ça. S'ils avaient invité seulement 20 joueurs, Paul Anderson n'aurait pas été invité au camp. Mais comme le nombre a été augmenté à 35, j'ai vu que j'avais des bonnes chances, et merci mon Dieu, j'ai été invité. Ronnie Ellis aussi a été invité, parce qu'on jouait sur la même ligne. Mais il y avait un joueur qu'on ne voulait pas avoir en tant que centre, parce qu'on ne savait pas s'il y aurait 7 lignes, 21 attaquants, et on pensait qu'on serait la 4e ligne au mieux, ou au pis-aller, on serait la 7e. Il y avait plusieurs joueurs de centre, et ils ont choisi ce genou, Bobby Clark, ce qui a d'ailleurs suscité la controverse. Après tout, pourquoi n'avait-il pas choisi Dave Keon ou Norm Allman ou Pitt Martin? On s'est dit qu'on ne voulait pas Bobby Clark au camp parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire le 7e trio. Donc on arrive au camp, premier jour, ils forment les trios, Ron Ellis, moi et Bobby Clark, donc on forme le 7e trio. Bobby Clark n'était pas connu. Alors tous trois, nous nous sommes réunis et nous avons décidé que même si on était considérés comme les plus faibles de l'équipe, on allait tout donner pour faire l'équipe. Et je n'ai pas besoin de vous dire que Bobby Clark s'est avéré être un des meilleurs joueurs, dévoué au possible. Et Ron Ellis et moi avons eu la chance d'évoluer avec ce jeune joueur. Nous avons été les trois seuls à jouer ensemble durant ces 8 parties. On a été la meilleure ligne. On était supposé être la ligne offensive pour les mises en échec, mais on a quand même compté plusieurs buts. Les Russes, on ne les a pas seulement battus, j'ai marqué le but gagnant au cours des 6e, 7e et 8e matchs. Et puis, je suis revenu au Canada et j'ai été la vedette. On m'a donné une auto, des bâtons de golf. J'ai été invité à plusieurs émissions. Tout le monde voulait avoir mon autographe. Et je me souviens même, à un feu de circulation sur une rue à deux voies, le gars sort de son auto et il me dit qu'il veut mon autographe. Et là, il y a des autos derrière. Le feu passe au vert, les gens commencent à klaxonner et il leur crie « Hey, ça va faire, c'est Paul Anderson et il est en train de me signer son autographe. » C'était vraiment ridicule. Plaisant, mais vraiment ridicule. C'était plaisant d'avoir ce statut-là dans la vie. Et les gens me disaient que j'étais la personne la plus chanceuse au monde. J'avais 28 ans. Ça faisait 8 ans que je jouais dans la LNH. Quelque chose d'ailleurs que j'avais toujours voulu faire. Et je vais vous dire une chose. Le hockey, c'est une belle vie. Bonne paye, des vacances de 4 mois. Bon, les livres s'en ont 5 par les temps qui courent. C'est une fichue de belle vie, il n'y a pas de doute. Et je me suis prouvé à moi-même et j'ai prouvé au monde entier que je pouvais jouer au hockey et bien jouer. On avait une belle maison, des autos et j'ai même eu une auto pendant 2 ans que les gens n'arrivaient pas à dépasser. J'ai appartenu à des bons clubs sportifs et je dois vous dire que de toutes les femmes que j'aurais pu choisir, j'ai pas pu en choisir une meilleure. Et ça fait 29 ans qu'on est mariés aujourd'hui. On a eu un mariage fabuleux, on a eu 3 beaux enfants, et je savais que j'avais tout ce que j'avais voulu accomplir. Mais au fond de moi, il y avait une insatisfaction, et je n'arrivais jamais à être heureux. Et puis en parlant avec les gens, je leur demandais s'ils étaient satisfaits dans la vie. Quel était le vrai but dans la vie? Et je n'obtenais jamais de réponse satisfaisante. Et juste au moment où je me pose toutes ces questions, je tombe sur ce gars religieux, un chrétien qui s'est redécouvert. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, qui s'est redécouvert. Mais je riais carrément de ces fanatiques religieux. Et je disais, « Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais n'essayez surtout pas de m'accrocher. » Donc, je commence quand même à parler avec ce gars-là. Il commence à me poser des questions qui ont commencé un peu à me faire réfléchir. Et il me dit, « Si tu mourais ce soir, « sais-tu où tu irais pour l'éternité? » Mais voyons, j'avais 28 ans, je pensais pas à la mort. L'éternité, toutes ces balivernes religieuses, ben voyons donc. Et je pensais que la chrétienté, c'était pour les gens qui aboutissent nulle part dans la vie. Si on peut pas réussir dans la vie, on a besoin d'une béquille, donc on se tourne vers Dieu. Mais l'homme choyé que j'étais n'avait vraiment pas besoin de Dieu pour se débrouiller, et j'avais une attitude très négative là-dessus. Et puis je me rappelle avoir dit à ma femme, « Penses-tu qu'il y a autre chose après ?» Mais on n'était pas vraiment sûr. On a eu la chance d'étudier le catéchisme et d'aller à l'église, puis on connaissait tout le baratin. Mais là, je me suis mis à jouer au hockey junior, j'allais devenir quelqu'un, et j'ai mis ça de côté. Et il n'y avait pas de Mike Gartner ou Laurie Boschman, de Ryan Walter, Keith Brown, Steve Crimson, Ken Austin ou Richie Hall, Pinball Clemens ou Joe Carter. Je ne connaissais aucun de ces athlètes pieux. En fait, à ce moment-là, je pensais pas qu'on pouvait être un joueur de hockey et être un croyant pratiquant en même temps. Donc j'ai été pas mal négatif. J'ai commencé à regarder ça de plus près. J'ai acheté une Bible. Et je l'ai lu une fois. Pendant 2 ans et demi, je l'ai rendu fou ce gars-là. J'ai posé des milliers de questions. J'ai lu et relu la Bible au grand complet. Et j'ai tout analysé en détail. Et après 2 ans et demi, j'en suis venu à croire en 4 points que j'aimerais partager avec vous ce soir. D'abord, j'en suis venu à croire et comprendre qu'il y a vraiment un Dieu au ciel qui m'aime vraiment. Qui ne veut pas que je sois mécontent, insatisfait. et qui désire que ma vie ait un sens et un but. La deuxième chose qu'il m'a expliquée, c'est que j'avais été séparé de Dieu à cause de décisions que j'avais prises. En somme, je disais, « Dieu, va où tu vas, moi je vais aller où je veux. » Paul Anderson a fait tout ce qu'il voulait, quand il voulait et comme il voulait. Et croyez-moi, en tant que joueur de hockey, vous avez accès à tout ce que vous souhaitez. Le gars m'a expliqué et m'a montré à l'aide de la Bible que la punition ou la conséquence de ce choix-là, c'est d'être séparé éternellement de Dieu. Et ça ne m'a pas excité outre mesure. Et la troisième chose qu'il m'a expliqué, c'est que Dieu nous aime tellement, nous les humains, qu'il a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ sur terre pour vivre une vie parfaite. Et lorsqu'il a péri sur la croix, il a pris tous les crimes des hommes sur ses épaules et il nous a montré la voie pour nous approcher de Dieu. Le quatrième point qu'il m'a dit est le suivant. Dieu te laisse le choix. Il te donne l'opportunité de redevenir un chrétien. Et il m'a expliqué ce que signifie renaître. Il m'a dit que notre naissance est physique et notre mort un jour sera physique. Et le ratio a toujours été de 1 pour 1. Toutes les personnes qui sont nées sont décédées éventuellement. L'histoire l'a prouvé. C'est la même chose pour les joueurs de hockey. Mais quand on est spirituellement aussi. Et on a l'opportunité d'avoir la vie spirituelle en invitant Jésus-Christ dans sa vie. Et quand tu décides de le faire, à ce moment précis, tu reçois la vie spirituelle. Et c'est ce que ça signifie, renaître. Et je me suis mis à travailler avec ce gars-là. Il n'était pas quelqu'un d'important socialement ou financièrement. J'aurais pu l'acheter des milliers de fois. Il n'était pas connu, mais il y avait une quiétude et une satisfaction chez lui qui sont venues quand il est entré en relation avec Jésus. Et j'en suis venu au point où j'ai voulu redevenir chrétien. Et je n'ai pas pu le faire pour 3 raisons. Principalement parce que je n'avais pas assez de courage. J'avais peur de paraître ridicule. Après tout, qu'est-ce que les Maple Leafs allaient dire? Qu'est-ce que les gars du club de golf de Mississauga allaient penser? Les gars avec qui je courais, avec qui je prenais un verre, avec qui je jouais aux cartes, ils allaient dire que j'étais entré en religion et ils allaient se moquer de moi. Et j'étais terrifié. La deuxième raison, c'est que j'étais un homme, un vrai. Et je savais que si je redevenais un chrétien, il y aurait forcément des changements dans ma vie. Imaginez-vous, remettre sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre qui en prend le contrôle. Je me suis dit que ça ne laissait pas beaucoup de place et qu'il fallait mettre passablement de choses de côté pour redevenir chrétien. Et la troisième raison que j'avais lue jusque-là, et c'était l'argument irréfutable, c'est que si on aime vraiment Dieu, on va le défendre et on va être un témoin. Oh, un instant, mon vieux, sous aucun prétexte, ce genou allait raconter à qui que ce soit que j'étais redevenu un chrétien. Mais j'ai laissé mûrir ça pendant plusieurs mois. Et un jour de mars 1975, j'avais alors 32 ans, j'étais tout seul dans ma bibliothèque et j'ai eu une conversation avec Dieu. Et j'ai dit, « Dieu, je ne peux plus me battre contre toi. J'ai tout ce qu'un homme peut souhaiter avoir, mais je n'ai pas la paix d'esprit et la quiétude. J'accepte le fait que tu m'aimes et j'accepte le fait que je suis séparé de toi. Et je te supplie de me pardonner maintenant pour toutes les choses que j'ai faites ici. Et j'invite ton Fils Jésus-Christ dans ma vie comme mon Dieu et mon Sauveur. » Et du même souffle, je lui ai dit, « Il faut surtout pas que tu t'attendes à ce que je le crie sur les toits. » Et on se retrouve plus de 15 ans plus tard. Je suis ici pour vous dire qu'il y a un Dieu et que je crois en lui. Et je réponds à ses prières. Vous vous souvenez que j'ai mentionné le mot « ridicule ». C'est sûr que je m'en suis fait un peu lorsque les gars l'ont appris. Lors des parties de gars, par exemple, 6 ou 7 autour d'une table en train de prendre un verre, tout le monde est de bonne humeur, mais comme j'étais un nouveau chrétien, j'avais des oreilles d'éléphant et j'entendais tout. C'était pas aussi mal que je pensais que ça le serait. Mais il y a toujours quelqu'un qui est pire qu'un autre. Alors j'avais fait le saut dans l'Association mondiale de hockey et on s'en allait jouer contre les Whalers de Hartford. Et il y avait ce joueur de défense, un animal, une espèce de sous-homme. Lorsqu'on jouait, il criait « Faites attention à Anderson, il va vous frapper avec sa Bible !» Et puis là, la foule se mettait à rire. Ce gars-là, il me puait au nez. Alors un soir, on y met tout notre cœur, on connaît tout le programme, on sait qui joue bien, qui marque des points. Et là, le nom de Billy est pas sur l'alignement, et je demande aux autres, « Mais où est Butters? » Ils me répondent qu'il a été relégué aux mineurs. Et je dis, « Merci mon Dieu, ce gars-là est parti. C'est le plus beau jour de ma vie. » Ce gars-là, c'est un animal comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et on se retrouve dans un aréna, 2 ans plus tard. Je jette un coup d'œil à l'alignement. Bill Butters. Et là, je sens la colère monter en moi, et je l'entends déjà crier après moi. Et j'ai des bonnes pensées chrétiennes à ce moment-là, comme le sortir de la glace, lui casser les deux jambes. Des bonnes pensées chrétiennes, quoi. Comme avant chaque début de partie, on va sur la glace pour patiner un peu. Je fais le tour du but, et j'aperçois l'animal au milieu de la patinoire, et il me regarde du coin de l'œil. Et là, je sens la pression sanguine monter. Pour les gens qui m'ont vu jouer, je ne suis pas un bon bagarreur, mais je suis quand même pas stupide. Donc je regarde à ma droite, et qui patine à mes côtés? Gilles Bilodeau. La seule raison d'être de Gilles Bilodeau dans la vie fut de récolter 500 minutes de pénalité en 1 an. Gilles aimait mieux se battre que de manger, et je lui ai dit, « Il va y avoir de la casse au centre ce soir. » Et il m'a dit,
« Parfait, on y va! »
Je dois l'admettre, j'ai jamais eu autant de courage qu'à ce moment précis. On a patiné jusqu'au centre chargé à bloc, et devinez ce que cet animal m'a dit. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Aurais-tu un peu d'informations à me donner sur toute ton histoire de religion? » Et je lui dis, « Billy, tu me fais marcher. » Il m'a dit, « Paul, j'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » Pour faire une histoire courte, Bill Butters, quelques mois plus tard, a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur. Le gars que j'étais convaincu être le plus éloigné de cette réalité, le gars qui me tombait sur les nerfs plus que n'importe qui au monde, réalisait lui aussi qu'il avait besoin d'un sauveur. Et aujourd'hui, il travaille pour Hockey Ministers International au Minnesota. C'est un groupe qui convainc les jeunes qu'ils peuvent avoir une relation privilégiée avec Jésus-Christ, notre sauveur. Je vous ai dit aussi que j'avais peur des changements, qu'il faudrait que je laisse tomber des choses. Et je dois vous dire que j'ai 32 ans d'expérience à faire les choses comme je l'entends. Mais depuis les 17 dernières années, je cherche Dieu. Je vous le dis ici ce soir, la vie la plus excitante est de donner sa vie à Dieu. Et je le dis sans équivoque. Je suis un bien meilleur mari, un bien meilleur père, un bien meilleur ami, et je suis devenu un bien meilleur joueur de hockey, dévoué, durant 6 ans, à compter du moment où j'ai donné ma vie à Dieu. Dieu a changé ma vie, mes priorités, de différentes façons. Je crois toujours qu'il faut travailler fort, je crois toujours en l'excellence et faire du mieux qu'on peut. On ne perd pas cet avantage-là. Et comme vous l'avez vu, tout comme Ryan Walter, Mike Gartner et Mark Osborne, on peut devenir un bon joueur de hockey et jouer dans la LNH. J'ai aussi appris que j'étais une personne égocentrique. Tout tournait autour de Paul Anderson. Et j'ai découvert que la plus grande joie sur Terre, c'est de donner. Vraiment. Et de différentes façons. Je vous le dis franchement, d'avoir marqué ce but en Russie a été la plus grande chose qui me soit arrivée d'un point de vue athlétique. Mais même ça, en comparaison d'avoir Jésus comme sauveur et de marcher à ses côtés, même cet exploit perd beaucoup de son importance. Et je vous ai raconté aussi que j'avais peur d'en parler à qui que ce soit. Eh bien, ça faisait 3 jours que j'étais redevenu un chrétien, et j'ai décidé qu'il fallait que je le dise à ma femme. Elle est ma meilleure amie. Et on est assis à la table de cuisine, à la maison. Et pour les gens qui ont déjà pris la parole devant un public, souvenez-vous de la toute première fois. Votre bouche s'assèche, votre cœur se met à battre, et vous commencez à suer. Donc on est assis à la table, ma bouche devient sèche et je me mets à suer. Alors, mais qu'est-ce qui va pas? Elle pensait que j'avais une crise cardiaque. J'y suis à... Ouais, ben j'en ris maintenant, mais je pouvais pas prononcer un seul mot. J'étais nerveux. Et elle m'a bien vu aller. Mais elle n'avait au fond rien à voir avec tout ça. Il m'a fallu 1 semaine pour finalement dire à Mel Stevens, le gars qui travaillait avec moi, pour lui parler de la décision que j'avais prise. Et j'ai tellement hésité parce que quelqu'un pourrait le découvrir. Et puis un soir, Ron Ellis et Denny sont venus souper chez moi un soir, et on était en bas en train de jouer au billard. Et aussitôt après l'avoir dit à Ronnie, tout ce que je voulais, c'était de pouvoir avaler mes paroles. Oh oh! Les gars allaient le savoir. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu taire, au fond. Et la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée, c'est d'en venir à connaître Dieu. Mais je veux vous dire ici ce soir que ce n'est pas parce que vous devenez chrétien que tout va pour le mieux, que vous marquez un but à chaque échappée, que vous ne subissez jamais de blessures et que vous n'avez jamais de problème. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas vrai. On vit dans un monde déchu et les chrétiens ont exposé tout le reste. Et je dois vous dire que la pire nuit de toute ma vie est arrivée après que je sois redevenu un chrétien. On est en 1983. On vit à Birmingham, Alabama. J'avais pris ma retraite du hockey et je me dirigeais vers le séminaire. Ma femme était sur le point de subir une opération. Et le chirurgien était un de nos bons amis. Donc elle a subi l'opération. Tout semblait vouloir bien aller et puis ce soir-là, il y a eu des complications. Et à 1 heure du matin, il y avait 3 médecins qui opéraient ma femme, dont le chirurgien qui était un de nos amis, qui suait à grandes gouttes. J'ai pris la main de ma femme et elle m'a dit « Je pense pas que je vais passer à travers. » Et vrai, comme je suis ici, j'ai perdu courage. Et je suis sorti dans le corridor, et je ne suis pas gêné de vous dire que je me suis mis à pleurer, et que j'étais en colère, et que j'ai montré mon poing à Dieu, et je lui ai dit « Va surtout pas me l'enlever. » Et là, dans ce corridor, j'ai réalisé qu'on ne peut pas jouer à conclure un marché avec Dieu. Autant j'aimais cette femme, et j'aurais déboursé n'importe quelle somme d'argent pour qu'elle s'en tire. J'ai réalisé que c'était tout à fait hors de mon contrôle. Et dans ce corridor, ça m'a pris beaucoup de temps avant que je m'en remette à Dieu. Ça a pris encore plus de temps avant que je donne mes enfants à Dieu et que je lui dise « Ils sont à toi ». Cela a pris encore bien plus de temps avant que je lui remette mon argent, puisque c'est l'argent qui me procurait mon sentiment d'accomplissement. J'aimais que les gens regardent Paul Anderson avec sa grosse auto, la montre en or et les bagues. Donc ma sécurité financière était très importante et j'ai dit à Dieu « que cela aussi, je la lui remettais. Mais la seule chose que je donnerais pas à Dieu, c'était ma femme, puisqu'elle représentait ce qu'il y avait de plus précieux pour moi sur terre. Et là aussi, dans ce corridor, j'ai réalisé que c'était pas grave. J'ai réalisé que je n'avais aucun contrôle là-dessus. Et j'ai dit à Dieu, « Même si tu me l'apprends, je vais continuer à marcher à tes côtés. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Je vais avoir le cœur brisé. Mais je vais trouver le moyen de marcher à tes côtés, parce que tu as fait épreuve à mes yeux plus d'une fois. » Et je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a eu une quiétude qui m'a enveloppé. Je suis redevenu calme. J'ai arrêté de pleurer. Je suis retourné dans la chambre, j'ai pris la main de ma femme, et je lui ai dit que je l'aimais. Et j'ai ajouté, « Tu vas te battre jusqu'au bout. » En fait, je lui ai dit, « Si tu meurs, je te tue. » Mais non, non, j'ai pas dit ça. Ma femme s'en est sortie, mais sans équivoque cependant, je peux dire qu'un de mes petits-fils n'a vécu que 2 jours, et que ça, ça déchire le cœur d'une mère, de votre fille quand ça arrive. Mais je vous dis ici ce soir que je n'y changerai rien, parce que Dieu m'a montré que je peux passer à travers n'importe quelle épreuve, puisqu'il est là. Il me prend par la main, il est mon meilleur ami, et la plus grande nouvelle, la Bible dit qu'on peut savoir qu'on aura la vie éternelle et qu'on pourra la passer avec lui. Je veux vous dire que je suis un exemple frappant d'un bon chrétien depuis 17 ans. J'aimerais aussi vous dire qu'on a eu de sérieux dommages causés par les éclairs ici. Je suis loin d'être parfait. Il a fallu que je m'excuse auprès de ma femme, de mes enfants, de mes amis. Et puis quelqu'un me coupe en auto et j'arrive pas à croire ce que j'entends sortir de ma propre bouche des fois. Avant, je sacrais. Maintenant, j'adoucis un peu, maudit con. Et je parle à Dieu et je lui demande de m'excuser. Et la raison pour laquelle il va le faire, c'est que je lui appartiens. J'ai eu 3 enfants. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont mes enfants. Et ils ont toujours su que je les aime, même s'ils avaient pris de la drogue, et Dieu merci, ils n'y ont pas touché. Et s'ils avaient tué quelqu'un, je les aimerais tout autant, parce qu'ils sont mes enfants. Bien sûr, j'aurais été désappointé, mais je les aurais aimés de toute façon. C'est ce que Dieu m'a dit. Tu es mon enfant maintenant. Tu peux revenir vers moi. Et j'ai dû retourner vers lui plus d'une fois. Et malgré le fait que je sois un homme pieux sur une base quotidienne, je ne suis pas parfait. Ne me prenez surtout pas comme exemple ou vous ne voudrez pas redevenir un chrétien. Prenez Jésus-Christ comme exemple. Alors en un mot, la meilleure façon de décrire ce que c'est d'être chrétien, marcher avec Dieu et avoir une bonne relation avec lui, c'est comme une relation matrimoniale. Quand ma blonde et moi on sortait ensemble, je ne doutais pas un instant qu'elle m'aimait et elle savait que je l'aimais. Et on est allé à l'église et on a dit « oui, je le veux ». Et on s'est engagé l'un envers l'autre. Tous les deux, on savait qu'on n'était pas parfait, on savait qu'il y aurait des aspects à travailler, mais on s'est engagé l'un envers l'autre. Et donc, au cours des 29 dernières années, on a eu une belle relation, et on a rencontré des écueils, et il a fallu qu'on vienne à bout de difficultés. Quand vous donnez votre vie à Dieu, vous lui dites « oui, je le veux ». C'est là que vous devenez son enfant. Ensuite, il vous faut travailler sur la relation. Ce n'est pas « fais ceci, ne fais pas cela », c'est une relation d'amour avec le Créateur de notre univers. En terminant, je vais faire une prière, tout comme la prière que j'ai faite il y a 17 ans. J'ai dit « Mon Dieu, je veux passer l'éternité avec toi. Je te demande de me pardonner pour toutes les choses que j'ai pu faire. Et j'invite Jésus-Christ, ton Fils, dans ma vie comme mon Dieu et mon Sauveur. » Et si vous êtes allé à l'Église toute votre vie et vous n'avez jamais remis votre vie dans les mains de Dieu, vous pouvez le faire. Vous pouvez échanger avec Dieu là où vous êtes, dans la quiétude de votre cœur. Ce ne sont pas vos paroles qui l'intéressent, mais bien l'attitude de votre cœur. Et surtout, je vous le dis ici ce soir, ne le faites pas, à moins de le désirer vraiment, à moins de comprendre vraiment pourquoi. Et si vous ne comprenez pas, je vous suggère d'aller chercher de l'aide. Alors, inclinons la tête et je vais dire une simple prière. Et si vous voulez échanger avec Dieu, vous pouvez le faire là où vous êtes assis maintenant. Dieu, merci de m'aimer et je te demande de me pardonner pour toutes les choses que j'ai faites et je te demande de tout effacer. Et j'invite ton Fils Jésus-Christ dans ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Et merci de me donner la vie éternelle. Amen. J'espère que vous avez apprécié ma conférence. J'aimerais prendre quelques petits moments pour vous aider à poursuivre votre voyage spirituel. Un des privilèges que nous avons en tant que chrétiens, c'est de pouvoir parler à Dieu, simplement en priant. Je prends un peu de temps chaque jour, en étant ouvert et honnête envers Dieu, je lui dis ce que je ressens, ce pourquoi je le remercie, et même les choses qu'il mérite. Je lui présente tout, mes préoccupations, mes besoins, mes faiblesses, ma famille, mes amis, et mes remerciements. Bien trop souvent, je dois lui demander pardon. Mais Dieu me change continuellement et j'apprécie la relation personnelle et intime que j'ai avec lui. Pour moi, lire la Bible a été une expérience fantastique, puisque ma connaissance et mon appréciation de Dieu a grandi, et c'est dans ce livre qu'il me parle. Je vous recommande de commencer par le livre de Jean dans le Nouveau Testament et de continuer la lecture. Lisez doucement et attentivement. Et en passant, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez recevoir un exemplaire du Nouveau Testament à titre gracieux en écrivant à l'adresse ci-jointe. Assister à la lecture de la Bible à l'Église régulièrement vous fournit aussi un environnement propice à la croissance et vous donne la possibilité de faire partie d'une association qui vous permet de devenir une bénédiction pour les autres. Vous avez peut-être écouté l'enregistrement et n'êtes pas prêt à vous engager tout de suite. Je vous encourage fortement à aller chercher des réponses comme je l'ai fait. Ça prendra sûrement du temps, mais l'effort sera récompensé. Demandez à Dieu de se révéler à vous. Et si vous êtes sérieux, il le sera aussi. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse tout au long de votre parcours spirituel.